Chaque année, la Commission européenne publie des recommandations pays par pays. Vous présentez aujourd'hui la fiche pays de la France à la représentation de la Commission européenne à Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est que ces recommandations, que ces fiches pays ?
En fait, c'est un bilan. C'est un peu comme quand vous allez faire votre visite médicale annuelle. C'est une sorte de bilan qui essaye de faire une analyse à la fois de la situation économique, de la situation sociale de chaque pays. Donc, ce n'est pas que la France. Il y a des rapports de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, etc.
Alors, ce n'est pas uniquement une production des technocrates de Bruxelles, dont vous faites partie, vous êtes économiste, mais aussi du gouvernement français.
Oui, ces recommandations, ça reste des recommandations. Pourquoi ? Parce que forcément, on n'est pas dans une situation où Bruxelles dicte à la France comment elle doit conduire sa politique économique. Bruxelles fait des recommandations et c'est normal qu'il y ait un processus par lequel, entre pays d'une même famille, on puisse échanger sur nos différentes politiques pour pouvoir conduire une politique économique responsable et solidaire.
Alors, au niveau de la croissance, au niveau de notre déficit qui doit être en deçà des 3%, où en est-on en France ?
Partons par les choses les plus positives. C'est qu'on voit que la croissance repart tout doucement et ça c'est positif. La croissance a été de 1,4 cette année. Elle devrait atteindre, je crois, 1,7 en 2018. Donc il y a une embellie et c'est très bien. Sur la question des déficits, en fait, nos prévisions table sur un déficit des finances publiques de l'ordre de 2,9% du PIB. Donc, c'est-à-dire qu'on est en deçà du fameux seuil de Maastricht, ce seuil fétiche de 3%. En 2018, il se pourrait qu'il remonte au-delà des 3%. Mais il faut bien comprendre que ces chiffres sont basés sur l'information dont disposait la Commission pour faire ses estimations au début du mois de février. Mais nous restons confiants sur la capacité du gouvernement français à rester en deçà des 3% cette année. Et forcément, pour 2018, nous savons qu'il y a des élections, nous savons qu'il y aura un changement ou non de gouvernement, et donc que ça aura des implications forcément sur nos calculs. Mais en tout cas, on encourage la France à rester le plus près de la trajectoire qu'elle a agréée avec l'Union européenne. C'est-à-dire trajectoire parce qu'on ne demande pas au pays de réduire tout en une fois.
Oui, mais on voit bien que la dette de la France, bien au-delà des 60% que demande l'Europe, elle frise les 100%. On parle toujours de est-ce qu'il y a une politique d'austérité en France ou pas ? Quelle est la position de la Commission sur la politique budgétaire française ?
D'abord, l'Union européenne et la France se sont mis d'accord sur une trajectoire de réduction. Et ce qui est important, c'est déjà de suivre cette trajectoire de réduction du déficit public. Cette trajectoire de réduction du déficit public va permettre ou devrait permettre une stabilisation du niveau de la dette. En tout cas, sur les années prévisibles, parce qu'on peut faire des scénarios pour 2020, mais on doit, dans les prévisions, on se limite pour les années 2017-2018. Donc là, première chose positive. Après, c'est vrai que dans notre bilan, il y a des choses sur lesquelles on peut se poser des questions. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans notre rapport. C'est est-ce que aujourd'hui, par exemple, dans les réductions qui sont faites, est-ce qu'on ne devrait pas faire plutôt que faire des réductions sur l'investissement public, est-ce qu'on ne devrait pas faire des revues de dépenses permanentes ? C'est quoi des revues de dépenses permanentes ? C'est-à-dire atteindre le même objectif en faisant avec moins de moyens. Et ça permet en tout cas de libérer des fonds qui permettent à la France notamment de continuer à garder son excellent système de santé, qui permettent à la France de maintenir ses transferts sociaux qui, rappelons-le, ont permis à la France de rester parmi les pays avec le moins d'inégalités en Europe, aussi contre-intuitif que cela puisse sembler pour beaucoup de gens. Et aussi, ça a permis à la France d'avoir des taux de pauvreté qui sont bien en deçà des niveaux européens et donc qui montrent que la France est un État avec une société et un système de protection sociale qui engrange lui aussi de très bons résultats.
Alors, il y a un problème au niveau du marché du travail. Pour le marché du travail, quel est votre bilan ?
D'abord, on salue beaucoup de réformes qui ont été faites en France, qui ont amélioré la flexicurité, que ce soit dans la loi travail, que ce soit également dans la loi Macron, il y a eu des progrès sur lesquels on pense que ça va dans la bonne voie. Maintenant, l'état des bilans, forcément, ces réformes, elles vont avoir un impact progressif dans le temps. Aujourd'hui, nous, on note encore certains problèmes, et c'est normal, type le fait qu'aujourd'hui, il y a trop d'embauches qui se font en contrat à durée déterminée, en CDD, on est à 85%, là où il y a 10 ans, on était à 75%. C'est également de se dire que dans le marché du travail, qu'on pourrait aussi améliorer beaucoup plus le lien entre le fonctionnement de la formation et l'apprentissage avec le monde des entreprises. Là aussi, il y a des marges substantielles de progrès. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte aujourd'hui comme la numérisation, où c'est important que on est des personnes capables de changer de métier, d'être capables de comprendre des technologies qui vont changer le travail. La nature du travail est en train de changer et c'est important de s'y adapter.
Alors au niveau de la balance commerciale, de c'est-à-dire de notre exportation, là aussi, quelle est la situation ?
On voit que la France a quand même encore un déficit de sa balance courante qui est assez important, important d'ailleurs par rapport au reste des autres pays de la zone euro. Même si, par exemple, c'est vrai que l'Allemagne a un surplus très très grand. Surplus quand même qui se réduit, il faut quand même le dire aussi. Maintenant, au niveau de ce problème de compétitivité, donc ce problème qu'on résumera à un problème de manque de capacité à exporter dans certains secteurs, parce que dans d'autres, je dois le saluer, je veux dire dans le domaine aéronautique ou dans le domaine du luxe ou dans certains domaines agricoles, la France excelle. Mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs où la France n'a plus la même force qu'elle avait avant et il faut trouver des moyens pour que ça s'améliore. Un autre élément, c'est que, par exemple, il faudrait encourager beaucoup plus de PME à exporter. C'est quand même dommage de voir qu'il y a aujourd'hui plus de PME qui exportent en Belgique, c'est un Belge qui vous le dit, qu'en Allemagne. L'Allemagne est quand même la première économie de la zone euro. C'est normal qu'il y ait quand même plus d'exportations françaises vers l'Allemagne. C'est aussi un encouragement d'ailleurs aux jeunes pour apprendre des langues. C'est un encouragement pour trouver dans les PME des moyens pour ne pas avoir peur de franchir les frontières et d'aller à l'aventure et de voir qu'en fait, il y a des débouchés et des possibilités qui peuvent être tirées du marché intérieur européen.
Alors, en conclusion, l'Europe, c'est quand même la première puissance commerciale au monde. Et Jean-Pierre Juncker, qui est le président actuel de la Commission européenne, voit une possibilité, justement, pour garder cette première place. Qu'est-ce que c'est ?
Le président de la Commission, M. Juncker, il a vraiment voulu déjà rebooster la confiance en Europe et rebooster l'investissement en Europe. Il a lancé le plan d'investissement, donc le plan Juncker, qui aujourd'hui a déjà réussi à mobiliser près de 170 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. C'est probablement quelque chose comme la taille de l'économie d'un pays comme la Grèce. Donc c'est une dynamique qui s'est lancée. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de projets en Europe, plein d'idées en Europe qui soit ne trouvent pas le chemin faute d'information vers des modes de financement, soit qui ne trouvent pas donc leur chemin vers une réalisation. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce plan Juncker. Et le plan Juncker, en tout cas, il est là, notamment pour parier aussi sur certaines des grandes révolutions qui sont en cours, comme la transition énergétique ou le numérique, dans laquelle l'Union européenne s'est lancée dans un vaste programme de propositions législatives, mais également de propositions de soutien à l'innovation, de soutien à la culture, parce qu'on sait que ce sont des domaines où il va y avoir énormément de choses qui vont se passer. Et par exemple, c'est dommage de voir qu'au niveau de la transition énergétique, alors qu'on a été les leaders, aujourd'hui, on est un petit peu en retrait au niveau des investissements. Donc il faut, grâce au plan Juncker, que l'on booste nos investissements dans le domaine de la transition énergétique et qu'on récupère notre leadership. Je ne sais pas si vous savez, mais 40% des brevets dans le domaine de la transition énergétique sont des brevets européens. Chapeau quand même. Et c'est pour ça qu'il faut optimiser cette richesse que nous avons, nous, Européens, grâce notamment à des activités comme le plan Juncker.